Bonjour, bonsoir à tous. Désolé pour ce petit quart d'heure de retard, mais c'est à votre avantage et au nôtre, parce que c'était imprévu, mais il fait moins chaud que tout à l'heure. Je vais commencer, je suis comme vous, très émue et très impatiente d'écouter Yasmina Kadra, que je rencontre pour la première fois. Je vais juste commencer, avant de faire la traditionnelle introduction un peu écolière, par une petite anecdote, et je serai très rapide, de comment j'ai aperçu Yasmina Kadra, alors que je ne l'avais jamais lue auparavant. Je dis cela parce que depuis ce jour-là, j'ai commencé à le lire et je trouve que l'homme correspond incroyablement à son écriture, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, il ne le sait pas, mais j'ai aperçu Yasmina Kadra pour la première fois il y a 3-4 ans sur un bateau plein d'écrivains qui voguait sur le golfe du Morbihan. Il y avait 150 ou 200 auteurs. Tous étaient contents de se retrouver par une belle soirée comme celle-ci sur ce bateau-là. Et un seul m'a intrigué parce qu'il ne faisait pas tellement partie de la fête. Il regardait au loin la mer. Il était pensif, ce qui est un peu normal pour un écrivain. Il y avait quelque chose de très fort, de très puissant, de très touchant et de très, très mystérieux dans cette manière de regarder la mer. C'est la première fois que je voyais cela. Je demandais qui c'était. On m'a dit Yasmina Kadra. Évidemment, je connaissais de nom Yasmina Kadra. J'ai commencé à le lire là et aujourd'hui, j'ai la chance de l'interviewer. Je vais compter sur vous aussi pour poser des questions, ne pas hésiter à en poser, parce que c'est une chance d'avoir un écrivain qu'on aime devant soi pour lui poser ses questions. Et sans plus attendre, je vais vous raconter en quelques mots, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu ou qui ne le connaissent pas encore, comme moi, il y a 4 ans, très rapidement, qui est Yasmina Kadra, avant de passer à son...
C'est moi.
Voilà. Alors, comme vous voyez bien, c'est un homme. Si nous avons longtemps cru que sous ce beau nom, ce beau prénom se cachait une femme, on le sait depuis l'écrivain, livre publié en 2000 ans, que Yasmina Kadra s'appelle de son vrai nom Mohamed Moulessehoul.
Faut pas le dire. Faut pas
Comment
le dire.
On le dit
Faut pas le dire. Mohamed, c'est très dangereux de s'appeler Mohamed. Moi, j'ai peur. Déjà, je crois que Val, c'est quelque part. Depuis qu'il est là, Valls. Il va me foutre dans un avion, hop, retour au pays.
Voilà. Qu'il a déjà publié sous ce nom des nouvelles et des romans en Algérie, officier dans l'armée algérienne pendant 26 ans, je crois. Il a participé à la guerre contre le terrorisme et a quitté l'institution en 2000 avec le grade de commandant pour se consacrer à sa vocation, la littérature. Et il a choisi d'écrire en français. Ses morituries, je fais la version rapide, je saute des lignes, qui le révèle au grand public, comme vous le savez. Aujourd'hui, Yasmina Kadra est un écrivain internationalement reconnu, traduit sur plusieurs continents, dans plus de 40 pays. Yasmina Kadra se lit en livre, se lit en bande dessinée. Nombreux de ses livres sont également portés à l'écran. Vous le savez, Morituri, ce que le jour doit à la nuit, l'attentat et plus récemment, je crois, les hirondelles de Kaboul. Il nous en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler surtout de son dernier livre, Dieu n'habite pas à la Havane, sorti dans ce paysage de la rentrée littéraire française, un livre qu'on attendait évidemment comme tous les livres de Yasmina Kadra, et un livre qui nous interpelle, pour nous ceux qui sommes habitués à ces livres qui traitent plus de sujets d'actualité, parce que cette fois-ci, nous vivons une torride histoire d'amour à Cuba, et pour une fois, nous sommes un peu plus loin de l'actualité.
Et c'est peut-être. Et c'est tant mieux. Hein.
Et je voulais vous demander, quoique l'actualité, elle est un peu là, parce que le régime castriste vit un peu ces dernières années, donc il y a un peu d'actu. Mais la première question sera peut-être cela. Comment se fait-il qu'après les livres qui ont fait votre grand succès, des livres liés à l'actualité, liés à votre histoire et à celle de vos pays, pourquoi avez-vous eu besoin ou envie d'écrire un livre qui traite d'autres choses ?
Bonjour. Je suis en train de chavirer dans ma tête. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi, j'aime me diversifier. Je ne suis pas un écrivain à thème. Je préfère aussi être un écrivain libre, interroger les humeurs, les cultures, les mentalités, parce que nous avons besoin de sortir un peu de notre bulle. J'ai écrit sur le terrorisme parce que j'ai trouvé que c'était nécessaire. J'ai commencé avec les années du Seigneur et à Quarry les Loups, c'était dans les années 1990. parce que je voulais tout simplement alerter l'opinion internationale, puisque je combattais par les armes ce phénomène-là. Et je disais, je me rappelle à l'époque, je disais aux journalistes, notamment français, que l'Algérie n'est pas en train de se battre pour sauver son âme, mais pour défendre l'humanité entière. Mais on a pensé que c'était tout simplement un problème de sous-humanité, problème de république bananière, et que ça ne pouvait en aucune façon déborder les frontières de ces pays sous-alimentés intellectuellement et culturellement. Eh bien, aujourd'hui, ils sont partout, mais il y a 20 ans, on pouvait faire quelque chose. Maintenant, il faut, je ne sais pas s'il faut doubler d'efforts pour essayer de faire quelque chose. Donc, voilà. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très fasciné par la littérature. Je suis la synthèse de tous les écrivains que j'ai lus. J'ai adoré toutes les littératures du monde, qu'elles soient européennes, russes, américaines, sud-américaines, africaines. C'était mon univers à moi. J'ai très jeune, j'avais compris que le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le fusil, ce n'est pas le cheval, ce n'est pas le chien, c'est le livre. Et ce livre m'a accompagné partout. Quand j'étais au fin fond du désert, je ne voyais autour de moi que nudité, désarroi, des espérances, des réflexions. Et puis j'ouvrais un livre et d'un seul coup, comme par magie, le monde était autour de moi. J'étais en train de vivre une histoire, de voyager, de découvrir des personnages. Donc j'aime diversifier. Et beaucoup de gens me connaissent à travers certains livres sur le terrorisme, mais il y a des livres aussi qui parlent, surtout qui parlent de notre époque, qui racontent comment l'humanité, alors ça a toujours le cas à travers les âges, comment l'humanité renonce à ses valeurs pour tomber dans le piège de ses propres vanités, de ses propres extravagances, de son ignorance aussi. Et puis surtout, le plus grand danger qui pèse sur l'humanité, c'est la méconnaissance. Ce n'est pas l'ignorance, c'est la méconnaissance. Parce qu'on croit savoir et on ne sait pas grand-chose. Et je rejoins un petit peu cet adage africain que j'aime beaucoup répéter. La plus grande des calamités, c'est celui qui ne sait pas qui ne sait pas. Et nous sommes aujourd'hui les otages de gens qui ne savent pas, qui ne savent pas. Et ils nous racontent le monde d'une manière assez biaisée, d'une manière assez approximative et surtout hasardeuse. Et ça n'ajoute qu'à la confusion. Donc, de temps en temps, je dis, hop, il faut aussi raconter ce qu'on aime. J'ai écrit ce que les autres voient la nuit, qui n'a rien à voir avec le terrorisme. J'ai écrit les anges meurent de nos blessures. J'ai écrit aussi sur les clochards, l'Olympe des infortunes. J'ai écrit des romans policiers. Et voilà, maintenant, c'est un voyage que je propose à mon lectorat, un voyage à Cuba, mais à travers une histoire d'amour. Et surtout, c'est une leçon de vie, ce roman.
Est-ce que c'est parce que le précédent, qui a eu un grand succès, La dernière nuit du Raïs, moi, il m'a scotché. Ce livre-là m'a scotché, pas par le sujet choisi, il traitait de Mouammar Kadhafi, on ne parlera pas de ce livre-là, mais par la complexité de tout ce qui se joue justement dans ce monde, de tout ce qui se joue dans les pays arabes qui sont un peu...
Oui, en réalité, rien ne se joue dans les pays arabes. Parce que la joie n'existe pas, l'enthousiasme compétitif n'existe pas. On est dans une sorte de marasme qui est voulu par un régime, mais qui est aux antipodes de la réalité citoyenne. Dans les pays arabes, il y a des gens comme vous, comme moi. Ce sont des gens qui ont des rêves, qui espèrent faire quelque chose pour leur pays, pour l'humanité entière. Il y a des ambitions, il y a du talent, il y a du génie. Mais malheureusement, les régimes, ce sont des régimes autistes qui empêchent justement l'émancipation. Et lorsqu'il n'y a pas l'émancipation, il y a une sorte de repli sur soi. On est l'otage de ses propres frustrations. Et à la longue, on finit par exploser ou par imploser. C'est exactement ce qui est arrivé dans les pays arabes.
Est-ce que, quand vous, et ce sera ma dernière question sur le précédent livre, on passe au nouveau. Au fil des pages de ce livre-là, je ressentais une grande... Je ne sais pas si c'était une frustration, si c'était plus qu'un agacement, en tout cas. C'était et une forme de solitude à vous, l'auteur qui écrit et qui connaît, et une forme de, pas de résignation, mais de tristesse en quelque sorte. Et je me suis dit, en lisant celui-ci, là, est-ce que c'était aussi un besoin pour vous de vous échapper, après avoir écrit un livre qui vous a forcément touché? Moi, je trouve qu'il vous ressemble terriblement. Le livre, je trouve qu'il y a justement ce que je disais lorsque je vous ai vu la première fois, cette forme de... de quelque chose de profond, de très fort.
C'est vrai que ça a été physique. L'écriture de ce livre, ça a été physique, contrairement à mes autres romans, parce que tout simplement, je suis entré dans la peau de quelqu'un qui se situe aux antipodes de ce que je suis. Mais j'avais peut-être une certaine légitimité à raconter Kadhafi, parce que moi-même, je suis un bédouin comme lui, je suis né dans le Sahara comme lui, dans une tribu comme lui, j'ai été soldat comme lui, et puis j'avais des rêves de jeunesse comme les siens. Mais en même temps, ma sensibilité n'a rien à voir avec la sienne, ma façon de voir le monde n'a rien à voir avec sa façon de voir le monde à lui. Moi, je me méfie du pouvoir, que je considère comme une possession démoniaque. Je me méfie de... J'ai peur de faire du tort aux gens. Je ne fais même pas de tort à mes détracteurs. Pourtant, je suis quelqu'un qui est vraiment attaqué de tous les côtés, mais je n'ai jamais réagi à ça. J'accepte mon destin. Lui, il ne l'a jamais accepté. Lui, il a voulu réinventer un destin qui serait le sien et celui de toute une nation. Et c'était l'erreur fatale. Mais ce personnage avait marqué quand même notre époque. Et j'ai trouvé que le ramener à un simple vocable, tyran, ça ne veut absolument rien dire. Parce que la tyrannie, c'est quoi ? C'est adjoindre l'impunité au pouvoir. Et on peut trouver cette tyrannie partout. On peut la trouver dans une entreprise. Si le patron de l'entreprise arrive à, comment dirais-je, à faire fusionner son pouvoir et son impunité, il devient tyran. On peut la trouver dans les écoles, on peut la trouver dans la rue, on peut la trouver même dans les médias. C'est aussi un journaliste qui a le pouvoir d'une tribune et qui bénéficie de l'impunité, qui s'attaque à n'importe qui d'une manière assez outrancière, tout en sachant qu'il ne risque rien, c'est aussi un tyran. Donc pour moi, le tyran, il y a une hiérarchie dans la tyrannie. Et c'est pour ça que je me suis attardé sur ce personnage, qui était finalement la victime de son propre délire.
Oui, c'est ça.
Et quand on n'est pas dans la générosité, quand on n'est pas dans le partage, quand on n'est pas dans l'humilité, on est obligatoirement dans tout ce qui nuit à notre propre personne.
Voilà, et je ne reviendrai pas au deuxième personnage qui est magnifique, parce que vous le lirez, ce livre-là. Le jeune lieutenant qui accompagne Kadhafi dans les dernières heures, qui est quelqu'un d'exceptionnel aussi, mais cela, vous le verrez dans le livre lorsque vous le lirez, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de Dieu n'habite pas la Havane, qui est sorti il n'y a même pas 2 semaines. Et là, vous êtes, comme d'habitude dans vos livres, dans la peau de votre personnage, coréen, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas les dictateurs. Vous avez choisi un musicien de 59 ans.
Un chanteur
de 59 ans. Et je vais vous laisser nous raconter comment vous avez découvert Cuba, parce que vous êtes forcément allé pour pouvoir aussi bien décrire la Havane, connaître les rues, sentir les odeurs, le goût.
Ben, ça a commencé en 2012. Un réalisateur m'avait sollicité pour écrire un scénario autour d'un personnage cubain. Et il m'avait laissé toute la liberté. Et j'ai créé un personnage qui s'appelle Panchito et qui est pêcheur, mais qui est face à l'adversité, face à la misère tout simplement cubaine. Et voilà, c'est l'histoire de... Ce personnage sera d'ailleurs incarné, et ça a été un grand bonheur de le savoir par Forest Whitaker. Donc moi j'aime beaucoup cet acteur et j'avais même écrit un autre scénario pour lui. Un film qui n'a pas eu de succès, qui s'appelle La Voix de l'ennemi. Mais là, je voulais vraiment réussir un beau scénario. Et on était allé en juin 2014 à Cuba pour en repérage. On choisissait les sites pour le film. On négociait avec les fonctionnaires de l'État, parce que tout se négocie avec l'État là-bas. Même le fait de respirer une bouffée d'air qui ne vous appartient pas, il faudrait passer par l'administration. Voilà. Et ça a été pour moi un moment magique, parce que tout en cherchant, parce qu'il me fallait aussi vérifier si je n'avais jamais mis les pieds à Cuba avant. Donc il me fallait vérifier si mon scénario collait un petit peu à la réalité cubaine. Et là, tout ce que je voyais, c'était mon personnage, c'était ce Panchito, c'était Forest Whitaker et tout. Et puis à un certain moment, il fallait l'écarter pour découvrir. Et quand je l'ai écarté, j'ai découvert Cuba. Et Cuba, c'est quoi ? Cuba, c'est... Je crois que c'est c'est le peuple qui a réussi à mettre les dieux à genoux. Parce que tout n'est pas parfait dans ce pays. Tout est géré par un système inexpugnable, inébranlable dans ses convictions à lui. Hein. Ce sont des convictions idéologiques, mais qui n'ont rien à voir avec les aspirations d'un peuple. Le Cubain, c'est un être jouissif. Le Cubain, c'est une fête itinérante. Le Cubain, c'est une générosité permanente. Et là, il est privé de tous les moyens de ses rêves. Et j'ai trouvé que sa longanimité était presque prophétique. Et je me suis dit, voilà l'exemple qui devrait servir à l'humanité entière. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser la dictature du désarroi, du désenchantement ou du régime politique nous gâcher notre vie. Parce que la seule préciosité qui nous revient légitimement, c'est la vie. Et donc, c'est à nous de trouver notre bonheur partout. Là où il n'existe pas, il faudrait l'inventer. Et les Cubains, ils ont réussi à transformer leur souffrance en une passion, en une vocation. Et je vous assure, j'ai vu des peintres qui en l'espace de 2-3 heures, faisaient d'un torchon une toile féerique. J'ai entendu des chanteurs, mais ils n'ont pas d'âge, les Cubains. On peut avoir 90 ans, mais dans son cœur, on a toujours 20 ans. Et ça, c'est magique. Et j'ai dit, il faut rendre hommage à ce peuple. Et j'ai écrit, Dieu n'habite pas à La Havane. Parce que Dieu, le véritable Dieu, c'est le Cuba lui-même.
Est-ce que la musique, pourquoi vous avez choisi un chanteur?
Parce que la musique, elle a toujours été omniprésente dans beaucoup de mes livres. Les sirènes de Bagdad, on ne parle que de musique. Les hirondelles de Kaboul, d'ailleurs, j'avais écrit, on vit. On mange pour ne pas mourir de faim, mais on chante pour s'entendre vivre. Les anges meurent de nos blessures aussi. Je parlais de cette musique judéo-andalouse. Moi, ça a été. La musique a été pratiquement le. Comment dirais-je? Ça a été le souffle du livre. Le livre, la lecture est silence, mais la musique, c'est le souffle même du livre. Donc, il y avait une sorte d'alchimie qui m'a permis, grâce au livre et à la musique, de ne jamais être que mon rêve. Comme Don Fuego, il a toujours incarné son rêve. Et aussi, par la musique, je crois que c'est quoi véritablement? C'est une émotion extraordinaire, la musique. Vous entendez, les bébés, quand ils entendent la musique, alors qu'ils ne savent rien du cosmos, ils ne savent rien du monde. Quand ils entendent de la musique, ils savent que c'est quelque chose qui est fait pour eux. Et j'ai écrit dans ce texte que la musique est le seul talent que Dieu envie aux hommes. Allah, il est jaloux de nous parce que nous avons inventé ce qu'il ne pourra jamais inventer. On a inventé Mozart, Beethoven, on a inventé Brel, on a entendu Léo Ferré, on a entendu. Enfin, toutes les musiques du monde, la musique indienne, hindoue. Et moi-même, j'ai écrit. Ce que le jour doit à la nuit, en écoutant Barbara Hendricks. C'est une dame que j'adore. J'ai eu l'honneur de la rencontrer en Suède, en Belgique. On est devenus pas amis parce qu'on est souvent écartelés à travers nos prestations, mais de cœur, nous sommes très proches l'un de l'autre. Et donc, Barbara Hendricks, chaque matin, je mettais un CD et j'ai commencé à écrire. Donc la musique, ça doit être un peu, comment on appelle ça là? C'est le solfège, c'est le solfège de nos espérances.
Mais on le sent bien, je me rappelle un passage de votre livre de Trompette, où tout un quartier au milieu de sa pauvreté accourt à ce son, il est magnifique ce passage.
Le problème c'est que tous les gens qui ont lu ce passage-là veulent entendre cette musique. Finalement.
Mais c'est ça, mais c'est exactement ça.
Ouais,
c'est impressionnant, c'est votre talent. Et c'est pour ça, c'est à cause de ces passages-là que je voulais vous demander pourquoi la musique. Parce que je me disais, quelqu'un qui l'écrit comme ça, qui l'imagine comme ça, a forcément un rapport pas banal.
Oui, les musiciens ont été mes compagnons d'armes. Je me rappelle quand on faisait les marches de nuit, les marches nocturnes, on traversait des forêts avec un sac à dos, et une arme, 25 kilos sur les épaules et tout. Et dans ce silence qui est aussi l'expression d'une négation. Quand on est dans l'obscurité, on est perdu un petit peu dans une forêt, on est dans la négation de soi. On n'est pas là où l'on voudrait que l'on soit. On est obligé d'aller quelque part où rien ne nous enchante. Eh bien, j'avais toujours un transistor, comme ça, avec cette antenne qui n'en finit pas, et hop, et j'avais toujours la chance de tomber sur Brel. Il me parlait de la fanette, et moi je pleurais dans le soir. Ah, la fanette, il me parlait de ces chansons éblouissantes.
Je me disais, ce n'est pas du tout ce qui était prévu, et j'ai perdu, en plus, non, je n'ai pas perdu mon... J'avais envie, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'ailleurs, c'est la fin de la journée, vous n'êtes obligé à rien.
Je suis vraiment désolé, je vous assure que ça fait 36 heures que je n'ai pas fermé l'œil une minute. Je vous assure que c'est la vérité. Alors, je tiens...
Est-ce que j'ai pensé à une demi-page, à une toute petite demi-page de ce qu'est la musique, justement, pour notre terre. Ce n'est pas le passage de la trompette, parce que celui-là, il est un peu plus à la fin, et ce sera à vous de le découvrir. On ne veut pas vous gâcher le plaisir de lecture. Est-ce que vous auriez envie de nous lire cette demi-page qui parle de musique, justement?
J'ai une diction atroce. Je suis le roi des lapsus. Et une fois, il y avait un lecteur qui était dans la salle. Et quand j'ai fini ma conférence, ma rencontre, il s'est levé, il m'a dit, « Monsieur Khadra, je suis très heureux de vous avoir lu avant de vous avoir entendu. » Sans la musique, je ne suis qu'un écho anonyme lâché dans le vent. Je n'ai plus de veines et donc plus de son. Je n'ai plus d'eau pour tenir debout ni de face à voiler. Sans les feux de la rampe, j'habite la nuit. Une nuit sans étoiles, sans rêve et sans lendemain. La peau que le serpent abandonne à l'issue de la mue me paraît moins à plaindre que la loque que je suis en train de devenir. 6 semaines et 3 jours à attendre le coup de fil salutaire. Mon téléphone se terre dans ma poche et fait le mort. Ah, j'ai dû louper une prière, dis-je avec amertume à Panchito. Ah, je n'en fais jamais, je me porte comme un charme. Son apathie m'horripile. Est-ce qu'il t'arrive de croire en Dieu? Il ébauche une moue. Je ne crois qu'en un seul Dieu, unique et incontestable. Celui qui fait et défait toutes choses en ce monde, le temps. Et il ne reconnaît qu'un prophète digne de lui, le hasard. C'est la naissance d'une nouvelle religion.
J'ai oublié de vous introduire le passage. Notre narrateur, et vous l'avez compris, un chanteur, il a 60 ans bientôt, il est obligé de quitter le club où il chantait, le Bonavista, qui est privatisé, et il attend ce fameux coup de fil. C'est pour cela que le portable est dans sa poche. Vous découvrirez tout cela dans le livre. Moi, je n'ai pas très envie de rentrer dans le détail de ce livre qui se lit, comme vous l'avez dit, comme une musique et qui se découvre au fur et à mesure parce qu'il y a évidemment du suspense. Donc je ne veux pas trop avancer pour ne pas trop vous gâcher le plaisir de lecture, mais vous avez le droit, vous, si vous l'avez lu, de poser des questions, justement, s'il y a des choses qui vous ont intriguées ou qui vous ont, au contraire, énormément plu. Moi, je vais plutôt revenir à un sujet un peu plus général, en partant de l'histoire de votre livre, parce que notre personnage principal tombe amoureux de la magnifique, superbe Mayenzi, qui a 30 ans, 40 ans de moins que lui.
Non, oui, 40 ans de moins.
40 ans de moins que lui. C'est un hasard, voilà, le prophète, là, le prophète de Dieu, à le hasard, lui fait rencontrer cette fille. Je vais vous laisser nous la décrire un peu, sans nous dévoiler trop du livre. Et puis, du coup, je profite et je vous pose ma deuxième question tout de suite, comme ça, vous me ferez une seule réponse pour les deux. C'est un personnage féminin qui est très intéressant. Vous avez choisi un pseudo féminin, Yasmina, qui vous a valu tout un tas de commentaires, parce qu'on vous aimait plus en femme à une époque avant qu'on vous découvre qu'un homme. Vous avez déjà expliqué ceci dans un de vos livres, celui paru justement après L'Écrivain, je crois que c'est L'Imposture des mots. Donc ma question, qui est Mayenzi et qui est la femme dans vos livres, en général?
Moi, je me rappelle, il y a une peut-être 13 ans, j'avais obtenu un prix de roman policier en France. Et il y avait un monsieur qui était venu tout enthousiasmé. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vous dirais, moi j'adore cette femme et tout. Et puis on lui dit, mais elle est là-bas. Et il me voit, il écarquille les yeux et puis il s'enfuit. Il n'est jamais revenu. Je crois qu'il a quitté la France, il a quitté l'Europe. Non, Mayensi, c'est quoi? Le personnage. Mon personnage, Don Fuego, c'est un chanteur que j'ai vu à l'Hôtel National pour ceux qui ont été à Cuba. C'est le personnage que je décris dans ce livre, avec sa queue de cheval, son Panama, sa veste un petit peu à la française, voilà, ses souliers cloutés. C'est ce personnage que j'ai imaginé, que j'ai introduit dans ce livre. Et il a mon âge. Eh bien oui.
Malheureusement, je n'ai plus
20 ans. Rien n'est fini pour nous. Hein? On ne va pas nous enterrer. Et puis, lui, il pensait que, et d'ailleurs, il le dit dans le texte, je ne suis qu'une voix. Mon cœur, mes bras, mes jambes, mes oreilles, ma tête n'en sont que les accessoires de fortune. Et il pensait que le pouls de l'humanité, c'est justement des percussions. Voilà. Et un jour, il va découvrir l'amour, il va découvrir aussi qu'il y a des percussions beaucoup plus fortes et beaucoup plus belles que celles du tambour, ce sont les battements du cœur. C'est là où il va s'éveiller à l'amour. Et il va aimer cette fille comme ce n'est pas possible. Mais Mayensi aussi a existé. J'étais à Kohima avec le réalisateur et le producteur du film Panchito, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a une splendeur. Une véritable splendeur qui m'a attiré comme un aimant. Voilà, ouf. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai tapé dans l'œil. Voilà, je ne sais pas. Et j'ai adoré cette fille, cette innocence. Bon, elle était magique. Et elle voulait, quand elle a appris ce qu'on faisait là-bas, elle voulait participer comme figurant dans le film. Et c'est resté comme ça. C'est peut-être une rencontre que je regrette beaucoup parce que je suis un homme très, très fidèle. En réalité, je suis ce que j'ai dit chez Michel Drucker pour vivre mon dimanche, de ce dimanche-là. J'ai dit, je suis un infidèle non pratiquant. Et c'est vraiment triste. Parce que je souffre. Ma femme m'a dit, si jamais tu me trompais, tu crasherais, tu mourrais dans un crash d'avion. Et je lui ai dit, écoute, d'accord, moi, c'est correct. Et pour les passagers, je m'en fiche. Et sincèrement, vous êtes, les femmes, sincèrement, pour moi, la femme, c'est... ce que Dieu a réussi le mieux de toute sa création. Je vous assure, aucune étoile, aucune galaxie, rien n'arrive à la cheville d'une femme. Mais ma femme m'interdit. Je lui dis, écoute, 60% pour toi et 40% pour moi. Non, rien à faire. Alors je souffre.
J'avais préparé tout un tas de questions assez sérieuses.
Pourquoi ce n'est pas sérieux, juste... l'amour?
Non, mais je pense que je vais plutôt laisser le public poser ses questions d'abord, et après je reviendrai à mes questions qui vont, je crains, plomber l'ambiance, l'exil, tout ça.
On s'en fout de l'exil.
Voilà.
Le véritable exil d'un écrivain, c'est son texte. Un écrivain ne s'exile que dans son texte. Autrement, il est partout chez lui. Mais... l'exil véritable, c'est lorsqu'on se soustrait chez soi pour se réinventer ailleurs. Et quand on se réinvente, on n'est plus soi-même. Et donc, on est en exil.
Mais est-ce que... Une toute petite question.
Oui.
Les gens d'ici et de là-bas, nés quelque part, qui vivent ailleurs, disent souvent qu'à un moment, au bout d'un certain nombre d'années, ils ne se sentent ni de là-bas à l'Algérie, par exemple, lorsqu'ils y vont, ni d'ici complètement, parce qu'ils ne le sont pas, ils ne le sentent pas comme ça. Est-ce que vous, vous avez ressenti
non,
cela
mais ou ça, ça arrive aux gens qui ne sont pas tellement sûrs d'eux-mêmes et qui se croient obligés de choisir. On n'a pas à choisir quoi que ce soit. Le seul territoire véritable qui nous appartient, c'est nous-mêmes. Alors que l'on soit en Suisse, ou en Bangladesh, ou en Afrique du Sud, si on est soi-même, on est partout dans son propre territoire. Mais il y a des gens qui se sentent obligés de renoncer à quelque chose d'eux-mêmes pour s'intégrer ailleurs. Et moi, j'ai toujours dit aux Algériens que je rencontre, s'intégrer, c'est se désintégrer. Restez vous-même et soyez digne justement du pays d'accueil. C'est tout ce qu'on vous demande. Soyez digne de ce pays d'accueil. C'est tout.
Merci. Est-ce que vous, vous avez aussi des questions, que vous l'ayez déjà lues ou pas, l'auteur ? Alors, je sais que toujours, la première question est toujours un peu compliquée, on n'ose pas se lancer, nous sommes 200, vous avez attendu une heure devant, dans ce cas, passez directement à la deuxième. Non ? Voilà, ça marche toujours, c'est incroyable.
Mais c'est un homme, c'est la première fois qu'un homme réagit en premier. D'habitude, c'est toujours les femmes. Je suis déçu.
Je peux prendre un nom féminin, si vous voulez. Moi, j'avais une question par rapport à Olivier.
Vous pouvez vous lever, je ne vous vois pas. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'avais une question par rapport à la dernière nuit du Raïs.
Oui.
À la lecture du livre, est-ce que vous pensez que finalement Kadhafi pouvait sortir sous un portrait... un peu attirer la sympathie pour lui?
Ça n'a jamais été mon intention. J'ai voulu tout simplement raconter l'homme. Mm-hmm. Et l'homme, c'est le croisement de l'ange et du démon. Cet homme n'était pas tyran toute sa vie, ni pendant toutes les heures de la journée. Il était aussi un grand-père, très affectueux. Il était un père attentif. Il était aussi un amant. Et il était un tyran. Quelquefois, il était même dans une très grande générosité. Voilà. Et j'ai toujours dit que le tyran, c'est le fruit hallucinogène dont notre petite et grande lâcheté. Un tyran est la première victime de son peuple. C'est par la crainte d'un peuple que naissent les tyrannies. Voilà. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert parce qu'en faisant peur aux autres, ils essayent de camoufler leur propre peur. Staline a vécu comme un détenu dans son palais. Il n'avait confiance en personne. Il se méfiait de tout et il était persuadé de finir assassiné. Et donc il était dans une angoisse permanente. Dieu le plaint, ce bonhomme. Et c'est pour conjurer cette peur qu'il terrifie le monde entier. Voilà. Moi, je suis triste pour ces gens-là. On ne peut pas se méfier de tout. Moi, j'ai été escroqué 1000 fois, mais je continue de faire confiance aux gens. Voilà, c'est pour mon équilibre. Lui, il n'avait confiance en personne. Et donc, il a échoué. Et il est mort, trahi par le peuple qu'il croyait incarné.
Ah, du coup, c'est peut-être un sujet pour un prochain livre. Parce que vous parlez beaucoup des raïs, des chefs d'État dans les pays du Moyen-Orient.
Non, pas du tout. Je ne suis pas... j'écris... Quand je veux comprendre quelque chose, j'écris. J'ai voulu comprendre ce que c'est que l'Afghanistan. J'ai écrit les Hirondelles de Kaboul. C'était en 2002. Mais je ne m'attendais pas à la guerre. Une année après, il y a eu la guerre là-bas. Je ne sais pas. Je veux... dans les années du Seigneur, un livre que j'ai écrit dans les années 90, au début des années 90, je parlais du fanatisme et de l'agression du patrimoine universel par les intégristes. Jamais avant ce livre, les intégristes ne s'étaient attaqués à un patrimoine universel. Jamais, au grand jamais. Il y a eu pourtant des courants, des sectes ignobles et tout, mais ils ne sont jamais attaqués à un temple. Et dans mon livre, j'ai écrit qu'ils s'attaquaient à un temple. Et 7 ans après, ils ont commencé à détruire les temples. Voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Beaucoup de gens ont pensé que j'ai écrit Cuba parce que maintenant, Cuba, tout le monde en parle. Mais non, Cuba, moi, je suis allé en 2014, en juin. En septembre, j'avais terminé le livre. Et j'avais le signé le contrat en septembre 2014 sous le même titre. Dieu n'habite pas la Havane. Une année après, c'est l'ouverture. Voilà, je ne sais pas. Il faut écouter son époque. Hein? Et je sais que l'année prochaine, vous allez vous marier, par exemple.
Vous faites peur, là. Je peux avoir votre carte à la fin?
Oui, nous avons une question à gauche. Ah, voilà, et une autre après.
Je n'en crois pas mes oreilles. Vous avez dit que vous avez terminé le livre en septembre en ayant parcouru Cuba.
Parcouru Cuba. Hein. On a été uniquement dans La Havane, Santa Fe, Cojimar, Hemingway. Donc on n'est pas allé très loin. On est resté une dizaine de jours seulement.
C'est-à-dire que bon, même si vous aviez réfléchi au scénario avant de faire les repérages, le livre lui-même, vous l'avez écrit en 2 mois. Vous écrivez si vite?
Non, pas si vite, c'est juin, septembre.
Oui, c'est ce que... Oui. Bravo.
Mais ça dépend. Quelquefois, c'est l'inspiration. J'ai sorti Qu'attendent les singes en avril 2014. Et tout de suite, il y a eu une campagne contre moi, déclenchée par le régime algérien. Et on a commencé à m'attaquer de toutes parts. C'est un espion, c'est plagiaire, c'est pas lui qui écrit. C'était terrible. J'ai dit, quelle est la meilleure façon pour moi de leur prouver que je resterai vivant? J'ai commencé à écrire. 3 semaines après, j'avais terminé la dernière nuit du Raïs. C'est-à-dire, on était en pleine promotion de Qu'attendent les singes quand j'ai déposé le manuscrit chez mon éditeur. Betty Miale est tombée par terre. Moi, j'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, oui. Mais je peux aussi mettre des années à écrire un livre. Kuzinka, qui est le texte le plus court que j'ai écrit, je l'ai écrit en 20 ans. Je vous assure, c'est un livre qui m'a accompagné toute ma vie. D'autres, je peux mettre une... Ça n'a... Le temps et le volume n'ont rien à voir avec la teneur d'un roman. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été écrits en l'espace de 2 week-ends. Et on a des nullités qui ont mis 20 ans. Hein.
je crois que la dame en noir... avait déjà levé la main.
C'est oui. Même pas glacé.
Oui. Ce que j'aimerais savoir, que pensez-vous de ce qu'on a appelé la révolution, le printemps arabe, en 2011?
J'ai rarement vu un printemps plein hiver, mais avec la... Je me rappelle, j'ai été traité de tous les noms, quand j'ai commencé à passer sur les plateaux de télé et dire qu'il ne s'agit pas d'un printemps arabe. Ce n'est pas une révolution. Je disais que c'est juste une insurrection qui n'a pas de suite dans les idées. Parce qu'une révolution se doit d'être incarnée par des gens charismatiques qui ont un projet de société auquel une grande majorité de la nation adhère. Or, il n'y avait rien. Il y avait une colère, il y avait un tyran. Le tyran a été renversé et c'était l'aboutissement même de cette colère. Donc moi, j'étais très, très... j'étais content que le peuple s'éveille à leur force et comprendre qu'il n'y a aucune tyrannie capable d'assujettir un peuple digne et conscient de sa force. Mais en même temps, je savais que ceux qui allaient profiter de ce renversement... C'était les gens qui étaient mieux organisés. Et à l'époque, la clandestinité ne s'organisait que pour les intégristes. Et tout de suite, on les a vus se manifester. Mais c'est à cause du régime, parce qu'ils ont tué toutes les consciences physiquement ou bien culturellement. Ils ont réussi à défigurer toutes les images nobles d'un peuple. Et ils ont obligé, ils ont contraint à l'exil des cerveaux. Et ils continuent aujourd'hui encore. Et quand il y a eu cette insurrection, le peuple n'avait pas trouvé de repère. Il n'avait rien à proposer en échange. Donc, les gens qui étaient les mieux organisés ont sauté sur l'occasion.
Si, je n'ai pas encore lu votre dernier livre, mais j'ai lu le...
Ah, vous avez beaucoup de chance.
Mais j'ai lu avec passion La Nuit du Reich. L'année dernière, en une nuit, je l'avais lu. J'avais une question à vous poser, mais c'était le dimanche et vous étiez déjà parti. La question était la suivante. Comment avez-vous pu narrer avec autant de détails La Dernière Nuit du Reich sans y avoir participé vous-même?
Heureusement, d'ailleurs, c'était la dernière. Ah, cette dernière nuit, elle est terrible. Non, mais quand je veux... Généralement, quand je m'approprie un personnage, je deviens ce personnage véritablement. Dans Fuego, il fallait que je devienne chanteur. Je n'ai pas été chanteur, mais dans ce livre, j'ai essayé d'être vraiment un chanteur. Et avec j'allais dire une connerie, avec Kadhafi, c'était la même chose. Je me suis imaginé dans la peau de ce dictateur, avec son entourage. Et comme je connais un petit peu la mentalité de son entourage, parce que c'est une mentalité qu'on peut retrouver un peu partout dans les pays arabes, c'est la même. C'est les courtisans, c'est les gens qui sont capables de marcher sur le corps de leur propre mère pour atteindre tel ou tel objectif. Donc ça n'a pas été difficile pour moi d'imaginer. Mais je n'ai pas raconté la vérité parce que je n'étais pas là. Mais j'ai essayé d'être le plus proche possible de la vérité. J'ai fait un petit peu comme on appelle ça, un profiler. À partir de certains détails, il essaye de configurer un peu la complexion cérébrale de l'assassin. Oui, il n'y a pas de problème.
Bonsoir. Moi, j'avais juste une petite question.
Où est-ce qu'elle est, cette voix séraphique?
J'ai adoré l'inspecteur Brahim.
Commissaire
Brahim.
Oui, moi aussi. Et il me manque terriblement.
Aussi,
ouais.
Moi aussi, et ma question était la suivante. Est-ce que vous allez faire d'autres livres avec ce personnage?
Beaucoup de mes lecteurs, surtout mes lectrices qui ont aimé ce personnage, m'ont demandé de le ressusciter. Et je l'ai ressuscité dans La Part du Mort, ça a été un flop. Donc il m'a regardé, il m'a dit « Tu n'as pas honte de me sortir de ma tombe pour me traîner dans la boue ?» Et depuis, voilà. Mais il me manque beaucoup. Oui.
Encore moi. Est-ce que ça vous arrive d'écrire pour vous, pas dans le but d'être publié?
J'écris de la poésie pour ma femme. Et je n'ai jamais songé à la publier. C'est une poésie qui est faite exclusivement par ma femme. Le problème, c'est qu'elle la déteste. Et quand j'arrive avec mon poème fantastique, elle le reconnaît à mes yeux, à mon regard passionné. Quand elle me voit arriver, elle est complètement pétrifiée. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens déclamer. D'accord. Et je commence à la chanter, à l'encenser, à la magnifier. Et à un certain moment, elle me dit, mais quand est-ce qu'on va passer à table? S'il te plaît, arrête. Donc, je ne peux pas. D'ailleurs, ce sont de très mauvais, ce sont pas de bons poèmes. S'ils n'ont pas réussi à plaire à ma femme, c'est que vous ne pourrez pas plaire aux autres.
Est-ce que vous avez une dernière question? Pardon.
Oui, ah pardon.
Je vais vous approcher mon micro. C'est bon.
Je ne vous ai encore jamais lu. Ma compagne vous a déjà beaucoup sollicité de vous lire. Et c'est certainement ce que je vais faire.
Les femmes ont toujours été plus vaillantes et plus lucides que les hommes. Hein, c'est pas...
Je voulais vous demander...
Ça ne m'étonne pas.
Avec un tel foisonnement d'idées que vous avez dans la tête, et puis des idées presque prophétiques, est-ce que la germination de toutes ces idées vous sont venues dans les longues nuits, quand vous étiez dans l'armée ou dans le désert, ou comme ça, une manière de dire peut-être d'une manière philosophique l'histoire du monde qui est en train de se créer, avec tous les des dégâts à toutes les choses qui...
Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Je crois que c'est quelque chose qui est inné. Voilà, nous... Moi, je suis né pour écrire. Hein. J'ai été dans l'armée à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, mon père m'a mis dans une institution militaire, mais moi, j'étais né pour écrire, parce que je descends d'une lignée de poètes. Moulsour, c'est 16 siècles de dynastie. Oui, je suis un descendant, un pur descendant droit de Moulsour, qui ont régné sur la Sahara pendant 6 siècles. Et pendant 6 siècles, nous avons été meilleurs que les Suisses. Il n'y a jamais eu de guerre sur ce territoire. Parce que nous avons toujours choisi nos cheikhs parmi les érudits ou bien parmi les poètes, mais jamais parmi les guerriers. Et ça s'est très bien passé. Donc vous devez la prochaine fois élire un poète en Suisse.
Que l'univers vous écoute.
Mais je ne sais pas sincèrement, il n'y a pas plus tard que cet été-là, j'étais allé dans le désert. Il ne faut pas le dire à ma femme. Il n'y avait qu'une seule personne qui savait où j'étais, c'était mon cousin. Je suis resté 3 jours en plein désert. Le village le plus proche était à 300 km. J'avais une caverne que j'avais repérée, ça fait des années. Et de temps en temps, quand j'ai l'opportunité d'aller dans le Sahara, j'y vais directement. Je reste 3 jours et c'est fantastique. Il n'y a rien. Je crie tout seul, je marche, je deviens fou. J'ai le sentiment d'être seul et invisible. Même Dieu ne me voit pas. Alors, c'est fantastique. Ah non, non, dans mon 4x4. J'attendais à rencontrer un djinn femelle, mais...
Est-ce que ça peut être ces longues marches ou ces longs moments de méditation dans le désert qui donnent ce côté très visuel à votre écriture?
Non, ce n'est pas la méditation, c'est la nature des gens du désert. La vue est essentielle chez nous. Un homme commence à mourir, ou une femme commence à mourir, dès lors que sa vue commence à baisser. Et c'est avec les yeux... Vous savez, le désert est uniforme. Hein? C'est la nudité partout, mais on n'a pas le sentiment... Il n'y a pas de... Quelquefois, c'est le plat, carrément le plat, qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Mais avec la vue, vous pouvez tout de suite déceler hein, le scorpion, la vipère, l'hanneton. Et c'est ça qui nous aide à comprendre que le temps va changer, qu'il va pleuvoir. Voilà. Et je reste avec ça. Quand j'écris, j'ai le sentiment d'écrire avec une caméra incrustée dans mon cerveau. Et je suis très visuel, parce que j'aime. Je suis aussi un ressortissant de la bande dessinée. Madame ?
Oui, je voulais juste savoir comment un homme de votre sensibilité, puis issu d'une lignée de poètes, se retrouve dans l'armée et choisit cette carrière-là. Ça me semble complètement...
Oui, les Parisiens, enfin, pas les Parisiens, certains journalistes parisiens, et ils me disent, oui, mais comment ça se fait un militaire qui écrit? Donc, pour eux, ce n'est pas possible. Un militaire, ce n'est qu'un homme, qu'une personne. Un individu. Oui, oui. J'étais à l'école des cadets à l'âge de 9 ans. L'Algérie venait d'accéder à l'indépendance et mon père était officier de l'armée nationale populaire. Il a offert à la nation son propre fils. Voilà. Et j'ai été dans cette école jusqu'à l'académie. Et après, quand j'ai voulu quitter l'armée, j'avais peut-être 19 ans, j'ai voulu, moi je rêvais de faire la sociologie, j'adorais la sociologie. Mais l'armée a décidé, l'école a décidé de n'envoyer à l'université que l'excellence, c'est-à-dire les gens qui ont la note excellence. Moi j'ai eu peut-être 13 ou 14, donc j'étais très loin de cette norme-là. Et j'ai voulu déserter. Il y avait quelques cadets qui avaient déserté, qui s'étaient quittés illégalement l'armée. Et ma mère est venue me voir. Ma mère, c'est une femme qui n'a jamais été heureuse 5 minutes d'affilée. Toute sa vie, ça a été déboire, déconvenu. Elle a souffert comme ce n'est pas possible. Et c'est devenu par la suite ma propre fille, ma mère et ma fille. C'est moi qui l'ai élevée. Je vous assure. Et elle a été répudiée à l'âge de... Elle avait combien? 27 ans. Elle avait 7 gosses. Elle s'est retrouvée dans un quartier interlope d'Oron avec cette gosse. Moi, à l'âge de 9 ans, j'étais déjà responsable de ma famille. Et donc, quand j'avais décidé de quitter l'armée, ma mère est venue me dire, « Mon fils, j'ai souffert pour vous, mais si tu veux vraiment me venger de toutes les souffrances que j'ai subies pour vous, va, rejoins l'académie, deviens officier et dépasse ton père en grade. » Et je lui ai donné 25 ans de ma vie. Mais je n'ai pas dépassé mon père en grade. Maintenant, elle sait que je suis en Algérie. Sincèrement, le peuple algérien me respecte beaucoup. Donc, quand elle va quelque part, elle achète des choses. Quand ils apprennent que c'est ma mère, elle ne paie rien. Elle peut acheter 1 kilo de viande. On ne prend rien d'elle. Elle sait que je suis quelque part, entre guillemets, important. Mais elle ne m'a jamais pardonné d'avoir quitté l'armée avec le grade de commandant. Voilà, c'est tout.
Ce sera la
elle est analphabète, ma mère. Elle n'a jamais lu un seul de mes... Elle ne sait pas, elle n'a jamais été à l'école. Jamais. Mais c'est une poétesse. Voilà, dernière question. Oui. Pose le débat proche.
Je trouvais que c'était une excellente conclusion.
Oui.
Mais ce...
Voilà, en fait, j'ai eu tout à l'heure l'occasion de vous dire que j'avais lu beaucoup de vos livres.
Oui.
Et celui qui m'a le plus plu, en réalité, je n'ai pas encore lu ce dernier, c'est « Les anges meurent de nos
blessures ». Vous allez vous régaler.
Voilà. Et j'aurais aimé juste savoir, parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, donc je peux faire peut-être de la pub, il est juste excellent. Et j'aurais vraiment aimé savoir dans quel contexte est né ce personnage de Tarombo qui est finalement... Enfin, qui est très fort, voilà, qui donne beaucoup, beaucoup d'émotions.
Moi, j'ai toujours été fasciné par cette époque, les années 30, c'est-à-dire l'époque entre les deux guerres. C'est une époque qui a été essentielle dans l'éveil du nationalisme algérien. Mais ni les écrivains algériens, ni les écrivains européens ne se sont attardés dessus. Et c'est resté une époque assez vague, assez incomplète, presque irréelle. Moi, j'ai voulu la visiter, cette époque. J'étais triste de ne lire l'Algérie qu'à travers un camp. Quand je prends un Algérien, je lis l'Algérie des Algériens. Je prends un Français, Camille ou n'importe qui, ou Gide, ou enfin Guide Maupassant, je vois l'Algérie à travers le regard de l'Européen. Et c'est, alors que l'Algérie, c'était une pluralité, c'était une diversité. Et c'est comme ça que j'ai voulu voyager d'une communauté à l'autre et même la réunir. Parce que le seul endroit où pouvaient se rencontrer les deux communautés, c'était dans un stade autour d'un ring. Et donc, j'ai créé ce boxeur pour voir toute l'Algérie rassemblée autour d'un projet athlétique. Ça vous coûtera 15 euros, monsieur.
Vous écrivez en français, mais vous écrivez aussi en arabe ou bien seulement en français?
Je fais la poésie en arabe. Ma poésie, je l'écris en arabe. Mais pour la littérature, c'est en français.
Pourtant, la musique des mots, elle y est aussi dans la...
Elle est dans la langue française.
Oui.
Elle n'est pas... Moi, j'essaie tout simplement d'être un chef d'orchestre. Mais c'est la langue française qui est chantante. Elle est aussi chantante que la langue arabe. Mais si on aime une langue, si on veut lui donner cette sensibilité qui est en nous, si on veut lui donner la générosité qui est en nous, ben cette langue, elle devient généreuse, elle devient chantante, elle devient... Il faut la respecter. C'est pour ça que moi, je décode quand j'écris. Parce que j'ai ma sensibilité de bédouin, d'algérien, de berbère, d'arabe. Donc, quand j'écris, c'est avec des codes. Heureusement que mes lecteurs les perçoivent très vite, puisqu'ils me comprennent. Mais par exemple, à Paris, on ne comprend pas ces codes. Et on veut m'imposer, par exemple, une façon de voir qui est complètement erronée, parce qu'elle va me trahir et trahir ma sensibilité. Donc, j'écris en français en lui insufflant un peu de ma sensibilité, de ma fragilité, de ma naïveté, et de ma culture berbère, arabo-berbère. Ah non, ce sont mes mots.
Vous ne les traduisez pas.
Non, on ne peut pas traduire la langue. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens me disent dans quelle langue vous pensez ? En arabe ou en français ? J'ai dit, premièrement, la pensée, c'est une réaction chimique. C'est une réaction chimique. Elle est traduite par une langue. Mais la pensée, c'est une réaction chimique. On ne pense pas en français. Parce que je suis certain qu'il y a un décalage. Il y a un temps, il y a un phénomène de temps qui n'a rien à voir avec le temps que nous vivons, le temps courant. La preuve, quand on parle, tout de suite la parole vient, l'idée vient avec la parole, alors que normalement il devrait au moins y avoir un temps de réflexion. Donc voilà, c'est...
Si vous avez d'autres questions, parce que notre auteur n'a pas dormi depuis des longues heures, parce qu'il fait chaud aussi. Moi, je vous encourage, demain, vous serez à la dédicace dès le matin, je crois, ouais. à aller poser vos questions, si vous en avez d'autres, dès demain matin à la dédicace. Je ne vous rappelle pas qu'un livre est une excellente idée de cadeau, qui coûte bien moins cher qu'un bouquet de fleurs, et qui dure bien plus longtemps. Et alors, en plus, ces livres-là, ceux de Yasmina Kadra, sont faits de ceux qui dureront longtemps dans le temps. Alors, si vous l'avez dédicacé, vous voyez bien.
C'est un billet d'avion, hein.
Voilà.
Pour Cuba.
Dieu n'habite pas la Havane, c'est le dernier Yasmina Kadra. Merci infiniment à vous pour votre disponibilité.